Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux. Littérature et bière glacée.
Grand Fleur Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grand Fleur Café par Hugues Robert.
Bonsoir, on est très heureux de vous retrouver ce soir sur Radio Grand Contrôle pour le Grand Fleur Café. Ce soir, enfin déjà depuis hier soir, il faut être honnête, l'Italie pose ses valises à Paris. Pour deux semaines. On est très heureux d'accueillir Guillaume Mallory, Patrice Caspari et Fabrice Mazera. Guillaume Mallory d'Historia, qui sort justement, et c'est l'occasion rêvée pour Grand Contrôle, un numéro spécial donc, de la revue titré « Ces Italiens qui ont fait la France ». Et tout de suite, moi je me posais la question un peu naïvement, on est en octobre 2018, pourquoi maintenant donc ces Italiens qui ont fait la France et qu'est-ce que c'est faire la France pour les Italiens ?
Alors c'est une question difficile, d'abord parce qu'on n'a pas commencé à Catherine de Médicis ou à Jules César, hein. On a commencé à la Révolution. Avec cet événement qui est assez peu connu des Français, c'est que la première fois qu'il y a eu une musique qui a donné lieu à la Marseillaise, la mélodie elle-même, elle a été écrite par un Italien en 1781 et pas en 1789. On l'a entendu hier d'ailleurs à Grand Contrôle. Et voilà, bon, on a commencé un peu par ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort, quoi. On voit qu'il y a des Italiens partout à la cour. Ensuite, il y a eu plusieurs types de migrations. Mais ce qui nous intéressait, on va sans doute beaucoup en parler, c'est d'essayer de trouver au-delà de la communauté italienne ou des personnes qui sont d'origine italienne, une, deux, trois générations, c'est la part d'italianité qu'il y a chez des Italiens, chez des descendants d'Italiens, chez des personnes qui sont mariées avec des Italiennes ou avec des Italiens, ou qu'un cas comme moi qui n'est pas du tout italien, qui porte un nom inuit, vous voyez, c'est pour vous dire, et qui pourtant a une passion de l'Italie absolument, absolument dévorante. Donc voilà, c'est en fait, alors c'est parti après de la conjoncture, du rapprochement entre moi qui souhaitait vraiment que cet événement se fasse depuis longtemps, et puis Alberto Toscano, que je connais depuis très longtemps, qui est journaliste, qui a aussi une grande passion de l'histoire, avec qui on a travaillé à Historia, où on avait travaillé avant au Nouvel Observateur.
Et qui était sur notre antenne il y a quelques semaines.
Et qui était sur votre antenne il y a quelques semaines pour son livre sur le vélo de Bartali. Eh bien, là, on s'est dit, allez, on y va, et on fait quelque chose de joyeux, de fort. Comme ce que je disais un peu hier, c'est comme on va faire une pâte à la maison, voilà, et ben on est allé un peu plus loin. Et puis finalement, le numéro, ça a commencé à s'enfler. Et au lieu de faire les 20 pages d'un dossier, on en a fait 100. Voilà.
Alors, ces Italiens qui ont fait la France, est-ce que très rapidement, vous nous rappelleriez, alors peut-être 4 ou 5 noms que les gens comme moi qui ne sont pas dans le secret, en fait, connaissent. Et puis les 4 ou 5 peut-être un peu moins connus, mais qui justement, qu'on pourra découvrir dans ce numéro spécial de la revue.
Je dirais plus des événements. Alors, on va en parler avec un expert, mais moi, ce que j'ignorais complètement, c'est pas un nom, c'est pas une personne, mais c'est un groupe, c'est souvent des petits pays. Hein. C'est pas toute l'Italie du Sud qui débarque ou toute la Vénétie qui débarque. C'est autour d'un village, un paese, voilà, il y a des gens qui arrivent. Alors, ce qui est supposé complètement français, c'est-à-dire l'accordéon, eh ben, c'est un produit italien. Ça, je l'ignorais. Enfin, moi, totalement. Et les trois quarts de mes, comment dirais-je, oui, de mes concitoyens aussi. Ça, c'est un. Bon, naturellement, Dalida, les gens savent bien qu'elle est, qu'elle vient de quelque part, mais elles savent pas trop si c'est Alexandrie, c'est une famille française d'origine italienne qui est allée à Alexandrie puis qui est passée par l'Italie. Ils ne savaient pas. Donc ça, on a fait le point là-dessus. Le fameux, dont j'oublie le nom, le fameux compositeur de la Marseillaise, bien plus tôt et qui s'est fait copier-coller son morceau, mais intégralement, il faut les entendre, aller sur YouTube et vous l'entendrez, c'est intégral. Qu'est-ce que je pourrais rajouter encore? Naturellement les joueurs de foot, les joueurs de les cyclistes, etc. Mais on n'a pas évité non plus. Des choses moins connues, plus conflictuelles. Alors, c'est moi qui l'ai écrit, justement, pour essayer de mettre un petit dièse là-dedans. C'est toute l'histoire d'Aigues-Mortes, où les Italiens ont été... où il y a eu véritablement un pogrom, si vous voulez, dans les salines d'Aigues-Mortes contre les Italiens, dans un moment, vers la fin du 19e, un moment de concurrence économique extrêmement forte. Et deuxièmement, autre histoire qui est très peu connue, c'est que, bizarrement, même si l'amitié entre l'Italie et la France est extrêmement forte, bah, c'est quand même le seul pays qui a inventé un nom, un mot spécifique, un substantif pour dire une espèce de... ça s'appelle misogale, qui est une manière de dire francophobe, mais francophobe en un seul mot. Et ça vient d'un type qui était fasciné, un aristocrate piémontais qui était fasciné par la France, par la Révolution française, qui est arrivé là-bas. Puis, à un certain moment, quand il a vu arriver la terreur, il s'est rappelé qu'il était aristocrate. Il est revenu, et là, il a écrit ce livre, qui est théoriquement un pamphlet effrayant, où il dit que les Français ne seront jamais capables d'être au niveau de la liberté. Et ensuite, ça a beaucoup... Il s'appelait Alfieri, et ça a eu des grandes conséquences, parce que il a été, les fascistes ont fait des instituts pendant les années 20-30, des instituts justement anti-français, anti-révolution française, dans toute l'Italie. Donc voilà, je veux dire, vous voyez, il y a des gens d'un peu partout qui sont peut-être moins bien connus, mais voilà, ça fait la richesse des apports, quoi.
Alors on va revenir sur plusieurs de ces points pendant l'émission. On a donc également avec nous Fabrice Mazera.
Bonsoir.
Qui est libraire, donc un confrère, qui est accordéoniste, et donc on va parler de musique, et qui tient également un blog culinaire, Eviva la Papa. Alors, comptez pas sur moi pour bien prononcer
c'est très bien.
Je suis désolé. En revanche, voilà, donc peut-être Fabrice Mazera, par rapport à l'occasion que fournit ce numéro spécial de la revue Historia, quels sont donc en musique et en gastronomie, en cuisine, les éléments les plus marquants qu'on peut partager ce soir?
Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Guillaume Mallory sur l'accordéon, c'est vrai que les Italiens ont fait en grande partie l'accordéon et certains Italiens ont fait l'accordéon en France, du coup, en émigrant. Donc, ils ont fait l'accordéon en Italie parce que la plupart, encore aujourd'hui d'ailleurs, des usines qui fabriquent les accordéons sur plus d'une centaine de marques sont regroupées dans 5 usines parce que c'est un produit, c'est un objet qui ne souffre pas d'industrialisation poussée parce que tout est fait à la main. Donc c'est des heures et des heures de travail, c'est une main d'œuvre très très forte. Alors même s'il y a une petite concurrence chinoise, mais l'accordéon c'est proche du violon, donc c'est proche de la voix humaine aussi, donc c'est une vibration qui est très ancienne et donc qui exige un savoir-faire avec du bois, avec la vibration de la hanche et la hanche libre. Donc les usines sont beaucoup en Italie. Il y a, elles ont été beaucoup exportées aussi en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud joue beaucoup le Brésil, l'Argentine sur des accordéons italiens. Et donc ensuite, il y a eu...
Disait la Russie aussi.
Oui, la Russie, ben les Balkans, les Balkans, c'est eux qui ont inventé la valse. Enfin, les Balkans, l'Autriche et les pays de l'Est ont inventé les mazurkas, les valses. La plupart des formes musicales qui sont jouées sur l'accordéon.
Alors, je le mentionne au passage, même si ça fait une petite digression, mais on est au Grandflore Café, donc on parle aussi. À chaque fois que possible, on essaye d'introduire un peu de littérature. Et c'est frappant que parmi les plus belles pages récemment, hein, dans les 10-12 dernières années consacrées à la facture d'instruments de musique italienne, C'est un catalan, en fait, Jaume Cabré, dans son magnifique roman Confiteor, en fait, qui raconte presque du point de vue des arbres, en fait, comment ils deviennent, en fait, instruments de musique vers Crémone, dans ces endroits-là.
Ouais. Enfin.
Et c'est vrai que c'est particulièrement. On sent qu'il y a un ancrage dans quelque chose.
Voilà,
de très,
donc Crémone, c'est la capitale du violon. Et Castelfidardo, c'est la capitale de l'accordéon en Italie. Il n'y a pas que là, mais ça a aussi beaucoup concentré. Et la tradition, ben, finalement, a perduré et reste sur un territoire, finalement. Hein, ce qu'on disait, ça ne peut pas trop s'exporter, finalement, ouais. Puisqu'il y a des expériences séculaires. Sinon, alors moi, sur la littérature, je peux rebondir aussi sur un livre que je recommande sur l'accordéon, alors, qui est fait par Annie Proulx, c'était l'auteur qui a écrit le secret de Brokeback Mountain, et qui a fait un livre qui s'appelle « Les crimes de l'accordéon », qui est un livre un peu odyssée, sur une trame un peu de polar, qui met en scène plein de personnages dans l'Amérique du Nord, dans la Louisiane. On pense aux Français, on pense aussi à certains accordéonistes français. Enfin, c'est un livre, elle a une écriture très, 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 très poussée dans les détails, dans les décors, etc. C'est un livre que je recommande, « Les crimes de l'accordéon » de Annie Proulx. Oui, alors sinon, donc sur l'accordéon, l'apport de l'italianité et ce retour de l'italianité, bon, il n'est pas forcément flagrant sur l'accordéon, mais les Italiens, émigrés italiens en venant en France, ont emmené dans leur besace l'accordéon. Pour eux, c'était un moyen d'écouter aussi leurs racines, d'écouter les musiques des champs, les musiques rurales. Et ils ont perpétué cette culture. Et donc, au bout d'un moment, ils se sont retrouvés dans les cafés auvergnats à Paris à jouer avec ces auvergnats. Et ils ont créé, pour la faire rapide, ce style qui s'appelle le musette, c'est-à-dire la musette auvergnate, cette sorte de cornemuse avec l'accordéon italien. Et donc, ça a donné ce style. Très flonflon, qui a donné aussi naissance à la Java, qui est une forme musicale, une danse à deux qui est née en France, mais c'est une des seules pratiquement danses à deux qui est née en France, parce que le reste c'est né en Europe de l'Est, ou alors la musique sud-américaine, tango, basso, etc. Et ensuite, ils ont aussi apporté les Italiens la plus vers la musique savante, c'est-à-dire qu'ils ont mélanger aussi l'accordéon avec le jazz, avec Django Reinhardt, avec des accordéonistes belges comme Gustav Wieser, et ils ont créé ce style, donc vraiment les musiques qui étaient faites à partir de gammes mélodiques et de la musique sur des racines de jazz, quoi. Voilà, donc ça c'était un peu l'apport des Italiens sur la musique et sur l'accordéon, puisque évidemment ils l'ont apporté dans leur bagage.
Effectivement, on sait, mais par ailleurs, mais on a plus envie de parler ce soir d'accordéon, enfin, et de choses qui sont proches de nous, parce qu'il y a une dimension qui a été mentionné, il y a une dimension savante dans tout ça, mais il y a aussi une dimension populaire, il y a une dimension ressentie, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'intime de chacun, y compris, comme le mentionnait Guillaume Mallory, quand les racines italiennes sont lointaines ou même inexistantes. Et donc il y a vraiment quelque chose qu'on a envie d'explorer autour de ça. Du côté de la cuisine.
Alors évidemment, la cuisine, alors là, on est sur un retour à l'italianité, mais perpétuel, parce que la cuisine italienne, finalement, c'est toujours... est toujours plus ou moins été ancrée en France. Alors, sur Paris, évidemment, capitale gastronomique par excellence, on a à peu près 10% des lieux de restauration à Paris qui sont des lieux de restauration de cuisine italienne, quoi. Donc, la cuisine italienne, une cuisine complètement différente de la cuisine française, une cuisine basée sur le produit, basée sur... vraiment la magnificence du produit, et donc qui reste une cuisine qui quand même a du mal à s'industrialiser. Moi, je sais que je suis originaire du Piacentino, vers Duché de Parme et Duché de Piacenza. J'étais encore les terres de Verdi, je suis vraiment dans ce coin-là, et c'est frappant. Il y a des champs entiers, c'est la terre de la tomate, des champs entiers de tomates, mais qui sont non pas sur plan comme on en voit beaucoup chez nous, ou même hors sol comme on en voit aussi dans une culture un peu plus poussée, qui sont comme ça, qui s'étalent partout par terre. Et donc des grandes marques de tomates font ces produits à partir de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la cuisine ? Moi, j'explore donc sur mon blog la cuisine italienne et aussi la cuisine française, puisque j'ai les deux cultures. La cuisine française qui est basée, elle, sur les techniques, sur la gastronomie. Évidemment, ça partait des sauces, ça partait du beurre, ça partait de la crème, qui sont complètement inexistants dans la cuisine italienne. C'est un autre mode de pensée. C'est basé sur l'huile d'olive, sur des produits, sur le cochon, sur les légumes, évidemment. Et du coup, moi, j'explore les deux en parallèle, mais c'est vrai que c'est très difficile de marier les deux. Alors, il y a certains cuisiniers qui arrivent à le faire, mais souvent qui ont été formés parce que la formation, l'hôtellerie française a ses lettres de noblesse. Et du coup, là aussi, c'est resté une grande expérience sur l'hôtellerie française. Et ils ont pu être formés avec des techniques françaises, mais en essayant de marier quand même la simplicité, la convivialité d'une assiette à l'italienne.
Est-ce qu'on peut dire quand même dans ce domaine ou pas, hein, que justement peut-être depuis 20-25 ans, non pas qu'il y aurait une convergence, le mot serait évidemment beaucoup trop fort, mais qu'il y a des échanges peut-être plus qu'avant entre justement toute une évolution de la cuisine française qui s'est quand même en 25 ans beaucoup rapprochée du produit, tout en gardant son respect, sa force pour la technique, mais qui fait encore sans doute plus d'importance qu'avant au produit lui-même. Et d'un côté, une cuisine italienne, qu'elle soit à l'étranger ou qu'elle soit en Italie elle-même, qui est plus friande aussi de techniques qu'auparavant. Est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose quand même dans ce domaine ?
C'est tout à fait juste, surtout avec, par exemple, je pense à des chefs cuisiniers qui ont fait beaucoup évoluer la cuisine moderne française, comme Robuchon ou Alain Ducasse, ont à un moment donné été vers cette cuisine de produits. Alain Ducasse a exploré pendant longtemps la cuisine méditerranéenne, même si ça n'est pas du tout, il n'a pas ouvert des restos italiens. Il y a Guy Martin aussi, Guy Martin qui a beaucoup exploré le chef du Véfour, qui a beaucoup exploré la cuisine italienne. Et donc effectivement, il y a ces échanges comme ça entre les deux. Alors les Italiens aussi deviennent beaucoup plus chefs parce qu'il n'y avait pas cette culture du chef cuisinier en Italie. Hein, en Italie, c'était quelqu'un. Il y avait la mamma dans les familles qui faisait. D'ailleurs, on peut rendre hommage aussi à toutes ces mamas qui ont un niveau de cuisine extraordinaire. Des plats très simples, mais qui sont somptueux, quoi. Et du coup, la France a apporté cette culture de chef, alors à tort ou à raison, après on peut en débattre, mais du coup, les Italiens se structurent un peu plus parce que, évidemment, l'Italie, les lieux de restauration sont moins structurés qu'en France à cause toujours de cette formation, de cette hôtellerie-restauration que nous avons ici en France.
Voilà, donc on parle de retour de l'italianité. On va faire une brève pause musicale en compagnie d'une chanson célèbre qui donne son nom en fait au blog de Fabrice Massera, Eviva la Papa, et dont le nom complet mentionne également ces vastes étendues de champs de tomates en fait autour de Piacenza. Voilà, on va laisser la musique nous entraîner quelques minutes.
Abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la papà papà, con le papà 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 pomodoro. Viva la papà papà, che un capo popo popo po lavoro. Viva la papà papà papà, popo pomodoro. Pancia che borbotta, è causa del complotto, è causa della lotta. Abbasso direttore, la zuppa ormai l'è cotta e noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa pappa, con la pappa 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 pomodoro. Viva la pappa pappa, che un capo popo popo po lavoro. Viva la pappa pappa pappa, col popo. Pomodoro.
Grande Fleur Café. Hugues Robert.
Donc Fabrice Macera, dont le blog, Mazera, dont le blog est nommé d'après cette chanson, va nous en dire quelques mots.
Oui, donc c'est une chanson qui est tirée d'un feuilleton en fait sur la RAI dans les années 60, qui provient d'un roman d'un Florentin, d'un roman du Settecento, je crois. Et donc déjà toscan, et cette recette dont parle la chanson, la papa col pomodoro, c'était un plat pauvre toscan fait à base de pain rassis, de pain recyclé, de tomates, de basilic, d'huile d'olive et d'eau chaude. C'est comme ça que ça va cuire. Et c'est divin, évidemment, avec des produits, avec des bons produits. Tout est dans le produit. Et c'est Nino Rota qui a signé la musique, et Lina Wertmüller, la réalisatrice de ce feuilleton, a écrit les paroles, et c'est l'actrice du feuilleton qui chante Rita Pavone, une grande chanteuse italienne.
Ouais, c'est comme ça qu'à partir d'un plat pauvre, hein, qui est effectivement un de ces signes distinctifs d'une cuisine qui part des produits, mais qui les exploite au maximum parce qu'elle n'a au départ que ça, hein, que les produits et pas toute la technicité et les coûts qui vont avec, qu'on arrive effectivement en pleine culture savante cinématographique et...
Oui, et donc c'est vraiment aussi vraiment un symbole de ce retour en italianité. Justement, à Grande Contrôle, il y a pas mal de lieux de restauration comme ça qui visent à rendre une cuisine simple, une cuisine conviviale, une cuisine camarade. Et les gens, les trentenaires, les quarantenaires aiment ce côté-là, et on la retrouve beaucoup dans la cuisine italienne.
Ouais, juste une chose, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que la cuisine italienne, d'abord une cuisine populaire, familiale, et la cuisine française est plutôt celle des chefs, celle qui est élaborée, une cuisine de cour. Voilà.
Exactement.
Et une cuisine de cour qui est déclinée après, mais
qui redescend.
Voilà, qui redescend. Qui redescend. Et les Italiens ont ça d'extraordinaire, c'est qu'ils ont fait à la fois la pizza, qui est, bon, on trouve des choses monstrueuses aux États-Unis qui s'appellent pizza, bon, mais il y a des pizzas partout. Et en même temps, c'est eux qui ont déclenché le slow food. Et Italie, EAT, voilà, aujourd'hui, qui est basé sur le produit, la revalorisation du produit. Donc, on a ces deux extrêmes, quoi.
Ouais, les Américains et aussi les Allemands. Les Allemands sont les plus grands producteurs de pizza surgelée au monde. Ils ont des usines qui sortent des centaines de milliers de produits tous les jours. Voilà. Refermons la parenthèse.
Sur cet aspect culinaire, effectivement, je mentionnais juste, pour rebondir sur ce que disait Guillaume Mallory, on voit aussi hein, qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre, et ça rejoint probablement le slow food, dont on a parlé aussi juste avant l'été, en fait, sur cette antenne. Il y a 30 ans, en fait, la cuisine dite bourgeoise, le mot, là, n'a pas de connotation politique, il a cette connotation, justement, de cuisine qu'on fait chez soi par rapport à une cuisine qu'on fait à l'extérieur, était totalement méprisé en France. Et il y a eu un travail de nombreux restaurateurs, certains très capés, d'autres beaucoup moins, mais pour retravailler en disant finalement un bon bœuf bourguignon, un navarin d'agneau, c'est quelque chose qui a un mérite, en fait, qui est pas nécessairement aussi acrobatique que des plats.
Et ben, je pense que ça s'inscrit là-dedans aussi. L'italianité, qui était traditionnellement comme ça une cuisine familiale, a fait écho aussi, parce qu'on s'est dit en France, ben, oui, dans nos régions, on a des plats mijotés, on a des ragoûts, on a des choses qui sont et qui reviennent aussi beaucoup à la mode, qui sont tendancielles aujourd'hui.
Voilà, donc ça rejoint ce que disait tout à l'heure Guillaume Mallory, et moi je suis très content parce que je crois que je ne l'avais pas réalisé avant ce soir, que cette italianité est effectivement beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde que ce qu'on imaginerait de premier abord, qu'elle ne se limite pas effectivement et qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une consonance italienne en fait, dans le nom pour que ça produise des effets assez profonds. Et justement, avec nous, nous avons donc Patrice Gaspari, qui confectionne, et j'utilise à dessein ce mot un peu d'artisan en fait, mais une revue qui s'appelle La Voce, donc le magazine des Italiens de France. Alors je ne vais pas prononcer en italien, enfin la Rivista degli Italiani in Francia.
Et si, non è male, va. Va bene.
Donc une revue magnifique dont on va un peu explorer le contenu parce qu'il est à la fois varié et qu'il est évidemment totalement dans notre sujet de ce soir. J'avais juste une petite question parce que j'ai réalisé en fait que La Voce avait aussi sa je ne sais pas si sa maison mère ou sa maison d'origine, en fait, en Italie. Donc, et qu'il y a quand même des différences substantielles au-delà de la présence de la langue française à côté de la langue italienne dans la Voce ici. En termes, justement, du contenu, comment, finalement, on conçoit un contenu pour des Italiens ou des gens qui s'intéressent à la culture italienne en France ?
Bonne soirée à tutti, et puis on va parler en français comme ça. Effectivement, la Voce, ça s'appelle la Voce dei Italiani in Francia, c'est-à-dire la revue des Italiens de France. On a voulu absolument se démarquer des Italiens qui étaient restés en Italie, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse déchirure entre les Italiens qui ont émigré, quel que soit le pays où ils sont allés, et les Italiens qui sont restés en Italie. Et entre ces deux, on va dire, communautés, est née avec le temps une différence importante. Et les Italiens qui étaient à l'extérieur, c'est-à-dire que tous ceux qui ont émigré, ont été en quelque sorte les premiers représentants des produits italiens. Et on estime que l'activité qui est économique d'exportation qui est née en Italie, générée par ces Italiens qui étaient partis, a pris une part considérable et a aidé l'Italie à sortir de la période d'après-guerre, à l'époque où il y a eu les grosses émigrations. Je voulais juste rebondir parce que on parle de la gastronomie. Effectivement, on aime ça. Et à l'intérieur de notre magazine, on a effectivement une rubrique qui s'appelle La Voce della Gastronomia, qui présente dans chaque édition une recette à base de pâtes et l'histoire de ces pâtes. Parce que effectivement, par rapport à la France qui a beaucoup centralisé et qui a centralisé un petit peu tout, même la gastronomie, l'Italie est restée quand même très campaniliste, très régionale. Et donc, chaque pâte a son histoire. Tout à l'heure, Fabrice nous a parlé de la pâte al pomodoro, mais il y a autant de régions et autant de plats, et dans chaque région, une multitude de diversité, de déclinaison des plats, parce qu'effectivement, la cuisine est faite par la mamma, et la mamma, elle utilise les ressources locales. Donc, pour nous, c'était très important de faire cette rubrique gastronomique avec une partie l'histoire du produit et puis après son exploitation, sa recette. Voilà, ça, c'est une démarche et c'est fait. Cette rubrique est gérée par un franco-italien qui a vécu toute son activité professionnelle en Bourgogne et puis qui est retourné aux sources dans la région en Toscane notamment et qui de là-bas nous concocte ses menus et va à la recherche des produits régionaux pour faire ses menus. Vous parliez tout à l'heure des deux langues. En fait, pour réaliser ce magazine, effectivement, qui est fait d'une méthode tout à fait artisanale, et là, par rapport à Historia, je reste très, très modeste et je suis très, très heureux qu'il nous ait accordé le moyen de nous exprimer, de nous montrer un petit peu. Chaque édition est faite à peu près par une dizaine de rédacteurs. Chaque rédacteur écrit dans sa langue d'origine. Nous avons des rédacteurs italiens qui sont en Italie, et nous avons des rédacteurs français, d'origine italienne la plupart, qui écrivent en français. Chacun garde sa langue naturelle pour aborder le thème qui lui convient. Et là, c'est aussi un petit peu une différence par rapport à une règle rédactionnelle, une ligne rédactionnelle bien précise. On laisse chaque rédacteur s'exprimer sur un sujet. Bien entendu, on donne une ligne, on donne un thème, mais chacun le traite comme il veut et moi, je m'interdis tout sabrage de texte. On est tous grands, on doit faire attention à ce qu'on écrit. Je le lis, bien sûr, on en reparle si jamais ça déborde un petit peu.
Et je peux en témoigner, d'ailleurs.
mais chacun écrit, et puis, effectivement, on a tous envie d'écrire beaucoup et de faire. Donc, là, il y a un frein à mettre, on sait ce que c'est. Mais voilà un petit peu, je dirais, ce qui fait que c'est une revue qui repose sur la passion. chacun écrit dans le domaine qui lui convient. Et c'est vrai, pour revenir sur Fabrice, il a d'énormes talents, ce jeune homme. Et il s'occupe aussi d'architecture. Il a fait une ou deux rubriques, l'Italia in Francia, dans l'architecture. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a un patrimoine architectural en France qui est extraordinaire.
Sous influence italienne, de façon infinie, pratiquement. C'est un univers à explorer infini.
Oui.
Absolument.
Voilà un petit peu. Effectivement, on a développé des rubriques qui sont un petit peu originales parce que c'est aussi lié à la naissance de notre magazine qui a une vingtaine d'années, s'est consacré à présenter l'activité italienne en France. Et cette activité italienne, il y a une vingtaine d'années, passait surtout par les associations franco-italiennes. C'était à l'intérieur de ces groupes, d'une part, qu'on a trouvé nos premiers abonnés, et d'autre part, que l'on a pu montrer l'intérêt que représentait l'Italie en France. C'est-à-dire que toutes ces soirées qui se passaient toujours autour d'un repas italien qui réunissait à la fois les Italiens, souvent de la même région, qui amenaient eux-mêmes leurs amis français, eh bien, ces soirées-là ont permis, en quelque sorte, de vulgariser l'esprit italien, les habitudes italiennes, les rencontres italiennes. Et là, c'est aussi une chose qui est importante. Il faut savoir que les associations italiennes, les premières associations italiennes, hormis la Dante, qui est une association qui est plutôt consacrée donc à la diffusion de la langue italienne, les associations ont été des associations régionales. C'était les Frioulans qui se retrouvaient avec les Frioulans, c'était les Siciliens avec les Siciliens, c'était les Piémontais. Bon, et on peut faire toutes les régions. Et à l'intérieur, et par exemple, on a le cas sur les Ciociari, c'est-à-dire les Lazia, le Latium, la partie qui se trouve entre Rome et Naples, nous avons dans un tout petit espace plusieurs associations qui représentent la même région, mais qui ont chacune leur clocher. Voilà.
Donc, alors, je veux rebondir sur l'accordéon, justement. Un des premiers, le premier balmusette qui a été répertorié, là on remonte à très loin, c'était en 1909 et c'était sur les bords de Marne. Et ça s'est fait un peu de manière empirique comme ça. C'était le fils de Félix Péguri. Qui est venu chez sa mère, qui habitait à Nogent-sur-Marne, chez sa veuve, faire une sorte de bœuf, un peu comme le font les Américains, avec d'autres amis accordéonistes. Et finalement, ça a tellement marché qu'il y a eu plus de 1000 personnes et ça a été répertorié comme étant le premier balmusette. C'est-à-dire, là, on pouvait boire, on pouvait... les bords de Marne, on appelait ça les jardins de plaisir. On pouvait venir soit s'encanailler, soit écouter de la musique, soit se restaurer. Voilà. Et donc là aussi, les Italiens ont apporté leur pierre.
Alors, j'ai l'impression, en vous écoutant et également en feuilletant le dernier numéro en date donc de la revue, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'il y a effectivement une recherche, me semble-t-il, hein, d'exprimer de l'italianité ou l'italianité, alors même qu'on part d'un terrain qui est effectivement multirégional. Ouais. On fait de l'italianité, elle se dérobe un peu si on est très pointilleux. Et il s'agit quand même d'exprimer quelque chose qui va s'ancrer dans un certain nombre d'éléments culturels, donc qui vont de la cuisine, en passant par la littérature, par la musique, qui se fait, alors je pense nécessairement, un peu plus peut-être timide quand il s'agit d'histoire ou de politique. Parce que précisément, on rentre dans une zone où il pourrait y avoir un peu de...
Oui, et il peut y avoir des turbulences, effectivement. Et vous connaissez le caractère fougueux des Italiens. Ça peut, effectivement, vous avez bien senti, on a une ligne relativement neutre, humaniste. On va dire qu'on se consacre plutôt aux faits. Qu'ont fait les Italiens hors d'Italie. On conserve quand même ce point avec l'Italie, cette référence italienne, parce que ces Italiens qui ont émigré depuis 50, 60 et 70 ans, on va dire, on a des lecteurs, un de nos prochains lecteurs aura 100 ans. On va quand même en parler, parce que c'est quand même... Et il continue à lire. Ces gens-là, quand ils ont émigré, ils ont en quelque sorte laissé leur pays. Hein, la volonté de s'insérer en France a fait que leur pays d'origine, leurs racines, ils les ont laissées là-bas. Et en quelque sorte, pendant des années, parce qu'en plus, ils n'avaient pas les moyens de retourner. On n'est pas dans la même émigration qu'actuellement, où ce sont des jeunes diplômés, des jeunes, on va dire, beaucoup de jeunes qui ont fait des études qui sont ici et qui ont fait le choix de chercher ailleurs. La plupart de l'émigration est... Là, je parle plutôt de nos abonnés. Ce sont des gens qui ont subi, en quelque sorte, l'immigration, qui ont été obligés d'aller chercher ailleurs un niveau de vie, un confort qu'ils n'avaient pas sur place. Donc, ces gens, quand ils sont arrivés en France, ont fait un énorme effort d'intégration, d'acculturation. Je vais aller dire jusque-là, parce qu'en fait, ils ont carrément... laisser leurs racines là-bas et sans les toucher. Ce qui fait qu'ils n'ont pas vu comment a progressé le pays qu'ils ont quitté. Ils n'avaient pas les moyens, forcément, ils n'y sont pas retournés. Et quand ils y retournaient en famille, donc ils ne savaient pas ce qui se passait et ce qui se passait autour. Donc, notre revue a eu le but, le premier but de cette revue, ça a été de présenter l'Italie à ces gens qui l'avaient quittée. Et ils étaient demandeurs, ma région, qu'est-ce qu'elle est devenue, qui c'est, quelle personnalité, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça, pendant les 10 premières années, tous les thèmes de la revue étaient consacrés à une région ou à une ville dans les régions afin de réactiver et de conserver ce lien avec l'Italie. Le but pour nous, c'était pas faire du communautarisme, c'était voilà comment a évolué l'Italie pendant que vous n'y étiez pas. Voilà. Et puis l'autre partie, effectivement, de la revue, c'était de dire, ben voilà, en France, c'est comme ça, et voilà ce qu'on fait, nous, les Italiens en France, et nous qui avons créé cette revue ici en France, nous sommes fils d'émigrés, même si moi, je suis né là-bas, c'est mon père qui a décidé d'émigrer, donc je suis fils d'émigrés, comme la plupart des gens qui ont créé cette revue ici en France, et notre but à nous, ça a été de maintenir cette culture italienne, et de pouvoir la valoriser pour pouvoir la transmettre, pour pouvoir mieux la faire connaître et pour pouvoir la transmettre. C'est un petit peu le but de ce magazine qui s'appelle la Revue des Italiens de France.
Alors, j'avais une question qui est peut-être un tout petit peu provocatrice, mais en tout cas pas du tout malveillante. Je me posais cette question en vous écoutant à nouveau et en parcourant la revue. Est-ce que paradoxalement, cette italianité, en fait, n'est pas exprimée de façon plus forte et plus homogène, tout en respectant les différences, par justement des Italiens hors de France que par des Italiens en Italie. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que, enfin, moi, me semble-t-il, hein, dans l'expérience personnelle et puis également ce qu'on veut dire, que un Italien en France, qu'il soit de première, de deuxième ou troisième immigration, est un Italien. Il n'est pas un Romagnol, un Sicilien ou un Calabrais, il est un Italien. Donc, il est un peu forcé aussi de créer l'italianité.
Oui. Effectivement, c'est une très belle remarque. Et une anecdote, on a essayé de présenter notre revue aux jeunes Italiens qui arrivaient. Mais eux, ça ne les intéresse pas. L'Italie la quitte, ils ne veulent pas qu'on leur reparle de l'Italie. Et nous, la manière dont on présente l'Italie, effectivement, c'est une Italie globale. Bien sûr, il y a les régions à l'intérieur, mais on présente toujours l'Italie d'une manière globale. À nos yeux, jamais on ne pourrait couper l'Italie en deux. Moi, quand j'étais petit, petite anecdote, on a encore un petit peu de temps. Quand j'étais petit, mon cousin me disait, tu vois, entre Gênes et Bologne, si on tirait un trait, nous qui sommes du Nord, on serait plus riche que la Suisse. Voyez-vous, c'était l'esprit. Et ça, c'est resté. C'est resté dans beaucoup, beaucoup d'esprits italiens dans la péninsule. Hein, c'est ça. Et ce qu'on n'a pas, nous, ici en France, on ne veut absolument pas ça. C'est pas ça, l'Italie. L'Italie, c'est toutes les ressources qui naissent de toutes les régions et de toutes les personnalités. C'est la fantaisie, c'est la créativité italienne. C'est vrai qu'un Italien, même dans les situations les plus dures, il cherchera toujours à trouver une solution. Et c'est ça qu'on veut présenter. C'est sous cette forme-là qu'on présente la revue. Et c'est vrai qu'on présente toujours l'Italie sous son aspect le plus flatteur, qui fait qu'on ne parle pas des choses difficiles, dures, type mafia, type politique, parce que pour nous, c'est une bouteille d'encre voilà, qui n'en finirait pas.
Alors sur cet aspect-là, je vais juste vous poser une question, mais un peu à tous les trois, hein, mais sur deux personnages de la scène littéraire, en fait, hein, mais qui sont des personnages importants, notamment parce qu'ils sont extrêmement connus en Italie et hors d'Italie. Pour des raisons complètement différentes, et je vais vous dire pourquoi, enfin, mais vous savez, hein, l'un est Roberto Saviano, l'autre est Andrea Camilleri. Je vais commencer par Andrea Camilleri. Je trouve frappant, parce qu'on parlait tout à l'heure justement de l'art culinaire, Andrea Camilleri, donc mondialement célèbre aujourd'hui, enfin, traduit dans toutes les langues ou presque, pour son œuvre littéraire globale, mais surtout, effectivement, pour son commissaire Salvo Montalbano, qui lui-même est un hommage à Manuel Vázquez Montalbán, donc un Catalan qui avait créé, une vingtaine d'années plus tôt, un personnage de détective qui était un détective cuisinier, donc qui adorait cuisiner et qui, dans ses romans, mettait les recettes, en fait, sous des formes. Bon, il n'y avait pas un encart, hein, puis ça coûte cher à produire les encarts dans des éditions de poche, mais en tout cas, c'était présent. Et c'est vrai que le personnage de Camilleri est quelqu'un qui, au-delà du fait qu'il se plonge, et il plonge sa lectrice ou son lecteur avec lui, dans une réalité sociale, culturelle, et de ce que vit la Sicile, non pas tant d'ailleurs sur les aspects les plus... mafieux qui sont une toile de fond mais presque ordinaire, mais sur des défis plus contemporains, sur des questions de trafic de drogue, de trafic d'êtres humains, etc. Mais qui a toujours cette part qui fait, je crois, le charme et qui explique, à mon sens, Camilleri, quoi. C'est la joie de vivre, le fait que, justement, une cuisine emblématique, c'est-à-dire simple, c'est toujours très simple, c'est un bon poisson bien grillé, et alors, bon, après, comme c'est Montalbano, il a tendance à en prendre plutôt 10, là où quelqu'un normal en prendrait peut-être 2 ou 3. Voilà, il y a Camilleri. Est-ce que c'est quelqu'un qui représente quelque chose par rapport à cette... Parce que oui, c'est sicilien, mais ça incarne pour beaucoup l'Italie.
Si je peux dire 2 mots et puis je laisserai la parole. Camilleri, oui, il est très connu en France. Il est très connu en France. Il faut savoir que la diffusion du livre en Italie n'est pas tout à fait la même qu'en France, et que justement toute cette prolifération, on va dire, toute cette créativité noie quelquefois des auteurs qui font leur succès en dehors des frontières italiennes. Bon, mais Camilleri, malgré tout, grâce à la télévision, voilà, est devenu aussi un auteur reconnu aussi en Italie. Voilà.
Donc justement, oui, les auteurs sont particulièrement sur une ligne qui peut les amener à fantasmer un peu l'Italie. Et nous, c'est un peu ça aussi, parce que nous, comme on n'est pas italien de vraiment de culture, on essaie de pas trop fantasmer, de s'intéresser justement à ce qui se passe de l'autre côté des Alpes. Et moi, par exemple, peut-être avec l'âge aidant, il m'arrive souvent de me poser la question, si mes parents n'avaient pas émigré, donc je serais resté en Italie, je serais resté italien, quelle aurait été ma vie ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Et c'est peut-être ça qui me fait m'intéresser aussi profondément à tous les aspects de l'italianité, évidemment depuis la France. Alors, effectivement, l'écrivain, lui, il a plus de liberté parce que il a la page blanche qu'il faut qu'il remplisse. Mais ce sont des vraies questions et qu'on se pose aussi en tant qu'individu.
Et je pensais donc surtout par rapport à ce que disait en dernier Patrice Gaspari. Patrice Gaspari, ce qu'il disait effectivement à propos du fait de montrer, et sans complaisance, mais simplement par recherche de parler au plus grand nombre de ce qui les intéresse, donc de parler plutôt des bons côtés, enfin de l'Italie, que des mauvais côtés. Effectivement, et on pouvait mentionner Roberto Saviano, qui construit un succès littéraire et politique, sociopolitique, en fait, en Italie et en dehors, en pointant, et il est évidemment ni le premier, ni certainement, tristement, le dernier, en fait, à parler, donc, en l'espèce de la Camorra napolitaine, mais à en parler d'une façon, peut-être, où il est le premier à en parler d'une façon à ce point contemporaine, c'est-à-dire en utilisant en fait des moyens littéraires qui sont ceux du reportage de non-fiction. Donc ça, c'était évidemment Gomorrah. Et puis effectivement, comme on l'a mentionné pour Camilleri, il y a le fait qu'ensuite le cinéma et la télévision s'en emparent et qu'aujourd'hui, on le sait, et c'est valable pour à peu près tout le monde, la télévision et le cinéma sont des chambres d'amplification que aucun roman aujourd'hui ne sait atteindre tout seul. Enfin, donc du coup, est-ce que Roberto Celleno, c'est quelqu'un dont on a quand même envie de parler parce que c'est aussi ce qu'il raconte, c'est aussi une partie de l'Italie, même si c'est une partie qui fait pas plaisir. Ou est-ce qu'on se dit bon bah oui, il y a déjà suffisamment de gens pour en parler, on va se concentrer sur d'autres choses.
Les deux personnalités sont, je trouve, assez différentes. Je pense que, autant Camilleri a cette espèce de regard, un petit peu fataliste sur les choses, sur les événements, sur ce qui est possible et pas possible, qu'il faut qu'il abandonne des enquêtes, il laisse faire, etc., avec un humour bien rital, etc. Autant Saviano, lui, est dans une problématique beaucoup plus grave, beaucoup plus militante, beaucoup plus investie. Enfin, les deux sont passionnants, hein, je veux dire. Mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai été très frappé par la dernière interview au Monde de Saviano, qui dit, attendez, vous voulez savoir votre futur, regardez l'Italie. Je veux dire, il dit ça en français, je veux dire. Et de manière très, très intelligente. Enfin, c'est pas un truc, c'est pas un jeu de mots, quoi. Donc, voilà, j'ai... L'Italie, c'est ça, c'est la multiplicité, quoi. Je veux dire, on a une littérature à Trieste qui n'a rien à voir avec la littérature romaine. On a des espèces de... Et c'est pas simplement parce que c'est régional, c'est aussi parce que ça appartient à des bouts d'empires différents. La romanité, je sais plus comment il s'appelait, le fameux écrivain romain là, qui écrit en dialecte. Et puis, à Trieste, où il y a pratiquement 60% de la littérature italienne. Voilà, bon, Gadda, voilà. 60% de la littérature italienne, et là, bon, c'est un tout autre, on va dire, ça ouvre vers l'Europe centrale, c'est, voilà, Trieste, c'est comme, c'était le port de, on l'oublie toujours, mais c'était le port de Vienne, hein.
Donc... C'est devenu la capitale du Frioul.
Et c'est devenu la capitale du Frioul, ouais.
Et la porte, oui, la porte, ouais, de l'Orient, c'est vrai pour l'Italie. Ouais. C'est vrai. Je voudrais revenir sur Saviano, et c'est tout à fait vrai ce que vient de dire Guillaume. Il s'est engagé dernièrement, justement contre. Bon, on va pas faire de politique, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans la réalité et qui la voit de la manière la plus sombre. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de ces gens-là. C'est vrai qu'au niveau de la Voce, on a fait un ou deux articles parce qu'on ne veut pas être moralisateur. En fait, les Italiens font ce qu'ils veulent chez eux. Hein, ils sont, voilà, comme les Français feraient. Bien. Ceci dit, on a besoin de mettre en avant des gens qui prennent des risques. Et réellement, ce type-là, on doit lui rendre hommage parce qu'il a pris des risques. Il continue à en prendre. Malgré toutes les pressions qu'il peut avoir, et on sait qu'il a des pressions. Et quand on voit, par exemple, allez, on va rebondir sur une petite chose actuelle, qu'on sait qu'on remet en cause une manière d'accueillir les migrants, cette manière qui était tout à fait unique et tout à fait originale, qui était de dire, voilà, on a des régions, des villages qui se dépeuplent, eh bien, on va mettre des migrants dedans. L'expérience de Riace, aujourd'hui, qui est remise en cause, est une expérience gagnante, même si économiquement elle coûte quelque chose, mais qu'est-ce qui ne coûte rien, hein, c'est, voilà. Donc, et cette expérience-là, où les migrants se sont appropriés d'une manière tout à fait officielle et tout à fait légale des ruines, pour en refaire un bourg actif économiquement en voie de développement, a été un exemple pour d'autres villages. Et aujourd'hui, face à ça, on veut recréer des concentrations et des ghettos. C'est normal que Saviano se mette contre cette idée-là, parce que, quelque part, effectivement, c'est un repère pour les jeunes Italiens.
Voilà, mais je crois que c'est important, et on approche de la fin du temps qui est imparti à notre émission. Je crois que c'est important, effectivement, de se dire et d'avoir en tête que, je crois que vous tous, et puis cette semaine, enfin ces deux semaines à Ground Control en sont un témoignage, et tout le travail que vous faites au quotidien, toute l'année, alors peut-être de façon plus générale chez Historia, de façon plus spécialisée chez La Voce et chez, et je vais essayer de le reprononcer correctement, Eviva la Papa. Qui a effectivement une Italie qui n'est pas du tout une Italie rêvée, qui est une Italie authentique, forte, dans ses multiplicités, justement, dans ses côtés parfois fragmentés, mais qui sait se rassembler, en tout cas dans nos esprits, au moment nécessaire. Et c'est celle-là, évidemment, qui nous plaît, mais ce qui n'empêche pas et ne doit pas amener à ignorer, en fait, ce qui peut être effectivement problématique ou gênant, parce que, et je crois que là je rejoins ce que dit Roberto Saviano, pas sous la même forme, mais parce que c'est pas parce que ça se passe en Italie que ça ne nous concerne pas tous, hein, et de même. Et donc voilà, je suis très très heureux, je vous remercie, donc Guillaume Mallory, Patrice Gaspari et Fabrice Mazera, d'avoir accepté de participer à cette émission. La semaine prochaine, on poursuivra en fait la thématique avec, en compagnie de Serge Quadrupani. On parlera de polar italien et un peu de polar français. Parce que, et je le mentionne une dernière fois, dans la superbe revue donc La Voce, la partie littéraire est pas du tout négligeable. Elle est même assez étendue. Et à côté de Zoom, en fait, sur des choses qui se passent effectivement en Italie, il y a tout un travail qui est fait de détecter, de mettre en avant aussi les influences réciproques entre France et Italie au plan de la littérature. Et c'est évidemment quelque chose qui nous tient à cœur, tout particulièrement au Ground Floor Café. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes, merci à tous.
Merci beaucoup.
Je vais vous raconter avant de vous quitter l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais en frappant du tambourin, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait: arriva Gigi Amoroso, croqueur d'amour et de velours comme une caresse. Gigi Amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. C'était la fête quand il chantait Zazza, Luna, Caprese, oh sole mio. Gigi Giuseppe, mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour, et les femmes étaient folles de lui. Toutes, la femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller, la femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant, et la veuve du colonel, la veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi, mais moi, Gigi aimait trop sa liberté. Jusqu'au jour où une riche américaine, à grand coup de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les carousaux, lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine. Nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs, le cœur serré ému par ce grand départ. Pourtant on était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir la Et quand il arriva, le village était là. Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Devant la
Gigi. Quand le train est disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Mais le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi ?
Les années ont passé, cinq hivers, cinq étés. Non, nous, c'était good news, on nous avait dit. Il a fallu du cran, du courage et du temps pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans le silence, oublions nos costumes et nos instruments. On entendait venir comme une larme et soupir du fond de la salle cette mélodie. Croqueur d'amour, l'œil de velours, comme une caresse. Gigi. Gigi? C'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te regarder.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Et moi?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.